Nicolas Martin, vous avez une revue de presse à faire. Je sais que ce matin, vous ne vouliez pas venir. Vous disiez,
c'est pas vrai.
Il n'y a pas de journaux.
C'est pas vrai.
Eh ben si, les journaux sont là.
Cet homme ment.
Ce matin, dans les journaux que vous avez lus pour nous, un bruit de bottes.
Et oui, c'est la guerre, Guillaume. Si on en croit, en tout cas, la presse ce matin, ou tout du moins les versions numériques de vos quotidiens nationaux, puisque vous venez de le dire, à part l'Humanité, aucun journal n'est publié aujourd'hui en version papier, enfin journal national en tout cas. C'est la guerre donc entre le gouvernement et la CGT, et pour chacune des parties, comme le disait l'incontournable stratège militaire John Rambo dans le film éponyme, c'est pas moi qui l'ai voulu cette putain de guerre, mon colonel, une façon élégante de dire que chacun se renvoie la responsabilité du conflit au visage. Et conflit...
C'est toujours votre tropisme pour les films, même si Cannes est terminé.
C'est ça, exactement, beau, exactement. Nicolas. Pour les films d'auteur. Et conflit, c'est le mot le plus tendre dans la pléthore de vocabulaire martial employé ce matin dans vos journaux. L'exécutif prêt à la guerre d'usure avec la CGT, titre l'article du Monde. Le gouvernement face à la CGT s'installe dans une guerre de position dure et frontale, potentiellement longue et dévastatrice, mais totalement assumée à ce stade par les principaux responsables de l'exécutif. Pour Michel Klekovicki du Républicain Lorrain, tout est en place pour un bon vieux choc frontal. Le premier qui freine est un dégonflé. Pendant que pleuvent les bourre-pifs entre la CGT et le gouvernement, les spectateurs s'occupent comme ils peuvent. La droite ricane en voyant la gauche s'étriper et le citoyen lambda fait des réserves de gasoil et de piles, comme à la guerre, en somme. Ce que résume Michel Hurvoy dans Ouest France en ces termes. Dans ce conflit, chacun use de son coup de force parce qu'il est faible. Chacun s'enfonce dans sa logique jusqu'à ce que ça passe ou que ça casse, droit dans leurs bottes, au risque d'hystériser le pays. Droit dans ses bottes, c'est le Premier ministre qui l'a dit. Les voilà, les bruits de bottes. Le chef du gouvernement se montre d'autant plus droit dans ses bottes que son navire tangue, pour Patrick Appelmuller dans l'Humanité. Manuel Valls est désormais un homme seul, droit dans ses bottes, gauche dans ses déclarations, écrit encore Yann Marek. S'il doit tomber, que ce soit les armes à la main pour Jean Levallois de la presse de la Manche. C'est amusant, cette expression droit dans ses bottes, pas tant pour son origine, un peu trouble d'ailleurs, qui convoque autant l'équitation que des soldats néerlandais ivres, mais pour la personne qui l'a remise au goût du jour. C'était en 1995, le 6 juillet précisément. « Je suis droit dans mes bottes et je crois en la France ». Cette personne, c'était Alain Juppé, avec le succès qu'on lui connaît à Matignon face aux grèves massives.
Et alors, qui dit guerre, Nicolas Martin, dit stratégie militaire.
Et oui, un bon chef de guerre est avant tout un bon stratège. Et si Manuel Valls est aujourd'hui un homme seul, quid du président de la République, selon Yann Marek, la séquence qui se joue actuellement sert ses intérêts. Rien ne dit qu'une stratégie à trois bandes ne se met pas en place. Le but, essorer le Premier ministre qui pourrait mourir avec sa loi. L'acte 2 du plan, nommé Emmanuel Macron à Matignon, ratissait large pour la présidentielle et coupait les ailes d'un poulain affamé, si tant est qu'un poulain ait des ailes. Machiavélique, officiellement oui, mais dans les allées du pouvoir, tout est envisageable.
Il y en a qui font des plans quand même. C'est compliqué la presse à lire chaque matin.
C'est de la stratégie militaire, Guillaume, voyons. Et c'est encore de stratégie dont il est question après la publication des chiffres du chômage hier, deuxième mois consécutif de baisse, une première depuis le début du quinquennat. Or, selon Patrice Chabanet du journal de la Haute-Marne, s'il veut capitaliser sur ses premiers signes positifs en matière d'emploi, l'exécutif a tout intérêt à rester ferme face aux prétentions de la CGT. La sympathie que l'opinion publique manifestait à l'égard des opposants à la loi El Khomri est en train de se transformer en exaspération. C'est donc à la guerre des nerfs que les deux parties vont se livrer en cette huitième journée de mobilisation. Mais cette embellie sur le front de l'emploi ne risque-t-elle pas de jouer en faveur des opposants? C'est ce que suppose Bruno Dive dans Sud-Ouest. Cette inversion de la courbe risque de produire un effet pervers et de susciter cette question au sein d'une opinion publique déjà sceptique sur la loi El Khomri. Puisque le chômage recule, est-il bien nécessaire d'adopter une loi qui va fragiliser le contrat de travail? Analyse partagée par Bernard Stéphan dans La Montagne. Les bons chiffres peuvent avoir deux corollaires. Celui de conforter le gouvernement dans sa ligne de fermeté face à la contestation de la CGT et celui de rendre encore plus impopulaires les blocages.
En somme, il semble bien loin le temps de la coopération entre les individus.
Oh oui, il faudrait presque remonter à 176 500 ans avant notre ère pour en trouver une trace, ou en tout cas Aujourd'hui, dans la presse, je vous suggère pour ça l'article de Libération consacré à la grotte de Bruniquel, hein, cette grotte du Tarn-et-Garonne où ont été découvertes des structures très anciennes qui montrent que l'homme de Néandertal était certainement plus évolué que ce que l'on pensait jusqu'alors. Les visiteurs préhistoriques de la grotte ont arraché des stalagmites, les ont basculés, sectionnés, fragmentés, tronçonnés, voire même calibrés pour les disposer de manière circulaire ou les entasser dans les parties centrales de la structure, selon un plan qui était certainement prédéterminé. Les hommes ont déplacé entre 2,1 et 2,4 tonnes de matériaux. Ce n'est pas un acte anodin, explique l'article. Ce qui nous conduit à cette organisation inédite dans l'histoire de Néandertal, qui suppose que Néandertal maniait les torches en sous-sol bien avant l'homme moderne. Il y avait des rôles différents et répartis entre les individus, une coordination, des échanges, peut-être aussi une hiérarchie, un chef qui donnait des ordres. Ah, une hiérarchie respectée, un chef qui donne des ordres, tout cela de façon harmonieuse dans un but précis. Voilà de quoi faire rêver en ces temps de conflit social. Mais pourquoi faire au juste? Sur ce point, Bruniquel n'a pas encore livré tous ses secrets. Par élimination, on peut supposer qu'il n'y a pas trop de raisons de type habitat, de raisons techniques ou alimentaires, explique l'article. On est progressivement acculé dans le domaine de l'immatériel qu'on a du mal à appréhender pour ces périodes très anciennes. De l'art, un rite ou un culte, c'est un terrain très dangereux et il faut vraiment réfléchir à deux fois avant de lâcher un mot de ce genre. Je vais répéter cette dernière phrase. C'est un terrain très dangereux et il faut vraiment réfléchir à deux fois avant de lâcher un mot de ce genre. De là à faire une analogie avec le conflit social en cours, il y a un pas que je ne franchirai pas.
Oui, ne le franchissez pas. Gardez-en pour demain. On ne sait jamais. Nicolas Martin, merci.